9h41, l'instant M de retour dans vos oreilles.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça qu'on travaille en direct.
M6 remet en selle et en scène le service militaire façon 30 glorieuses. Nostalgie réac pour ceux que ça révulse, sujet d'actualité pour les autres car les jeunes, chômage et attentats obligent, se tournent à nouveau vers l'armée. Nous, on s'est demandé qui était cet instructeur à qui seront confiés 19 volontaires de ce programme. Soldat des commandos de marine, il a déjà fait l'objet d'un documentaire et joué son propre rôle au cinéma. Bonjour Marius.
Bonjour.
Votre histoire, vous l'avez racontée dans un livre, Petit voyou marseillais qui intégrera les forces spéciales. L'autorité, vous l'aviez donc méchamment défié au départ. Alors quel regard vous portez sur les gamins que vous avez formés pour l'armée? Et qu'en restera-t-il une fois passé à la moulinette télé-réalité? On en parle après la chronique d'Amaël Guiton de Libération. Salut Amaël.
Salut.
La science pour tous, en avant toutes.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Sonia De Villers.
La chaîne de télé de la TNT, l'équipe 21, va supprimer son 21, mais également de nombreux postes. Cyril Linette, patron du groupe L'Équipe, qui se recentre donc autour d'une marque unique, L'Équipe pour le journal, L'Équipe pour le site et L'Équipe pour la télé, souligne dans le Figaro les 20 millions de pertes annuelles de la chaîne et la nécessité à budget constant de réinjecter de l'argent dans les droits sportifs. Moins d'émissions donc et plus d'événements sportifs en direct, plus de compétitions. Les syndicats marquent le coup et bloquent ce matin la parution du quotidien L'Équipe, dont les ventes ont néanmoins nettement progressé depuis le passage en format tabloïd. Alors Amaël, quand je disais la science pour tous, c'était pas une blague. Les adeptes du téléchargement illégal de musique ou de séries avaient The Pirate Bay, un site qui a beaucoup marqué l'histoire de l'internet. Eh bien, les chercheurs, eux aussi, ils ont leur Pirate Bay, ça s'appelle Sci-Hub.
Oui, Sci comme dans Science, hein, mm-hmm. Et Hub pour noyau ou plateforme. C'est un site qui permet d'accéder gratuitement à plus de 47 millions d'articles scientifiques, qui est utilisé chaque jour par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Mm-hmm. C'est une chercheuse en neurosciences du Kazakhstan, Alexandra Elbakian, qui l'a lancée en 2011. Alors pourquoi ? Eh ben pour aider ses confrères. Quand elle était étudiante, elle ne pouvait pas payer $30 à chaque fois qu'elle avait besoin de lire un article publié dans une revue. Elle a donc créé un moteur de recherche qui permet soit d'accéder à des articles déjà archivés, soit de contourner les accès payants en utilisant des identifiants fournis par de généreuses universitaires anonymes.
Oui. Voilà. Ils font ça, les universitaires anonymes.
Et ouais. C'est très malin, c'est aussi complètement illégal.
Bon, alors en même temps, il faut dire que l'abonnement aux grandes revues scientifiques coûte carrément les yeux de la tête.
Ouais, ça fait des années que les chercheurs se plaignent des tarifs de l'allemand Springer, du néerlandais Elsevier, de l'américain Wiley, les trois grands. Mm-hmm. À titre d'exemple, l'abonnement à la revue de neurosciences Brain Research d'Elsevier, ça coûte 9 000 euros par an pour la version numérique, 13 000 pour la version papier.
En effet.
C'est un gros problème dans les pays du Sud. D'ailleurs, les trois pays qui comptent le plus d'utilisateurs de Sci-Hub sont l'Iran, l'Égypte et l'Indonésie. C'est aussi un problème pour une université comme Harvard qui expliquait il y a 3 ans qu'elle ne pouvait plus assumer 3,5 millions de dollars d'abonnement par an.
Mais c'est un chiffre astronomique.
C'est astronomique. Et en France, l'État a accepté de verser 172 millions d'euros à Elsevier pour que les facs puissent accéder à ces 2000 revues pendant 5 ans. Alors, personne ne nie que le travail des éditeurs est nécessaire, évidemment. Mais là, le déséquilibre est flagrant, surtout quand les chercheurs qui signent les articles sont financés sur fonds publics.
C'est vrai, ça, absolument. C'est un problème majeur même. Alors j'imagine que Sci-Hub est la bête noire des éditeurs.
Et oui, l'année dernière, Elsevier justement a porté plainte. Un tribunal new-yorkais a fait fermer le nom de domaine, sci-hub.org. Sauf qu'Alexandra Elbakian n'a pas déclaré forfait. Elle a remis le site en ligne à une autre adresse, sci-hub.io. Et elle a écrit au juge pour expliquer que pour elle, les pratiques d'Elsevier sont contraires à la Déclaration universelle des droits de l'homme. On pense forcément à Aaron Swartz, ce militant entendu Net et développeurs qui avaient été poursuivis pour avoir téléchargé le catalogue d'une plateforme américaine de publication scientifique et qui s'était suicidé en 2013 à New York. Elbakian, elle est au Kazakhstan et le serveur de Sci-Hub est en Russie, donc un peu plus loin.
Voilà, donc c'est un peu le jeu du chat et de la souris.
Oui, mais au bout d'un moment, les scientifiques finissent par se faire entendre petit à petit. Il y a plusieurs pays qui ont mis en place une exception au droit d'auteur pour que les chercheurs financés au moins pour moitié sur fonds publics puissent diffuser leurs articles librement, passer un délai d'exclusivité pour l'éditeur. Mm-hmm. C'est d'ailleurs ce que prévoit le projet de loi numérique en France. Autrement dit, les scientifiques n'auront peut-être pas éternellement besoin d'un Pirate Bay de la recherche pour se documenter.
Merci Emmaël.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
C'est les années 60. En 2015, ils font pas comme ça l'armée. Ou sinon, il y aurait personne qui irait à l'armée. J'ai envie de me barrer.
Il faut dire caporal, il faut dire chef, il faut dire patron, il faut dire... comment il s'appelle, Louis de Funès, là-bas, là.
Capitaine.
Capitaine, il faut dire là. Et eux, ils t'appellent Polo.
Je m'attendais à de l'autorité, mais pas celle-là d'autorité. C'est de l'autorité méchante. Si dans les années 60 ça marchait, tant mieux pour eux, mais là ça marchera pas. C'est pas ma façon de voir la vie, ça.
Voilà, mon invité se fait appeler Marius. D'où vient Marius ?
Alors Marius, c'est un surnom qui m'a été donné quand je suis rentré dans la marine par mon instructeur, donc dans les années 84.
Voilà, et puis vous l'avez conservé.
Je l'ai conservé comme avant au sein de la défense. On a tous des pseudos. Moi, je l'ai conservé. Il me va bien et puis il fait bien mon affaire.
Voilà, vous êtes à votre tour. Vous avez été à votre tour instructeur, hein, et là vous l'êtes pour ce programme de télé Garde à vous pour M6. Qui donc réhabilite en quelque sorte le service militaire. Je l'ai dit, aujourd'hui, il y a un mouvement qui pousse les jeunes vers l'armée. Il y a le chômage, évidemment. Il y a le choc des attentats parisiens. France 2 y a consacré un complément d'enquête. Il y a tout un dossier ce matin dans le Figaro vers l'armée, vers la police. Donc on sent qu'il y a un autre regard de cette génération sur l'engagement dans les forces de l'ordre. Pourquoi avoir ancré ce programme dans les années 60 alors que c'est un enjeu très actuel ?
Non, je pense que de toute façon, l'envouement des jeunes pour la défense, il l'a toujours été, il est toujours. Mmh. Peut-être une légère augmentation avec ce qui s'est passé sur le territoire national et le fait que ça fasse réfléchir. Cette expérience sur M6, pourquoi les années 60? Parce que déjà les décors sont sympas, l'ambiance change et puis je crois que c'était un peu plus attrayant de revenir. Et dans chaque famille, dans chaque cellule familiale, il y a toujours un oncle ou un père qui parle du service militaire. Et depuis sa suppression, et ben les enfants de cette génération, et ben entendent parler du service militaire sans jamais l'avoir connu.
Simplement par
un oncle, par un père ou autre chose.
Et là, on entend bien un gamin qui dit c'était les années 60 et c'est plus aujourd'hui.
Ah, je crois que ça aurait été peut-être difficile de l'actualiser, mais rien n'a changé dans les manières pédagogiques de dispenser l'instruction, qu'on parte d'apprendre la réglementation militaire, le salut, les épreuves sportives ou les épreuves psychologiques, pardon. Rien n'a changé là-dessus, quoi. Des années 60 jusqu'à maintenant, il n'y a que la technique ou la modernité qui a évolué.
C'est ça. Donc
évolué,
là,
quoi.
C'est la petite touche nostalgique propre à M6, qui avait surfé sur le succès des choristes, qui avait fait son pensionnat de Chavannes. Donc c'est un petit mélange des deux, quoi.
Alors là, j'aurais du mal à vous répondre, moi, là-dessus, parce que je ne suis pas le spécialiste de ça.
Ni
mais par contre, c'était bien agréable d'aller boire le café dans un foyer reconditionné comme les années 60. Moi, j'ai trouvé ça relativement sympathique.
Alors, vous êtes l'une des dernières générations, hein, donc avoir effectué votre service au mi-temps des années 80. On va juste dire un mot sur votre jeunesse à vous, Marius, qu'on comprenne quel regard vous portez sur les jeunes aujourd'hui. Vous avez grandi confié à l'assistance publique. Vous avez très mal tourné à la vingtaine. D'ailleurs, vous dites un mot de ce que sont devenus vos potes de Marseille de l'époque. Patrick est mort du sida, je l'ai lu dans votre autobiographie. JM fera 10 ans de prison pour braquage. Antonio te retrouvait mort sur un parking d'Aix-en-Provence. Le corps criblé de balles. C'est exactement comme ça que vous auriez pu terminer.
Oui, si j'avais pas eu la chance de rencontrer la bonne personne à un moment donné, et d'avoir l'envie de changer complètement de vie, quoi.
Bah, la bonne personne, à un moment donné, c'est un inspecteur,
dans un commissariat, lors d'une garde à vue, oui.
Voilà.
Oui.
Donc, son collègue venait de vous écraser son poing dans la figure.
Exactement, oui. j'en garde un beau souvenir, une tour Eiffel, juste sous mon nez. Mais voilà. Et une personne intelligente qui a su me parler en me voyant, en me donnant les bonnes clés, en m'expliquant les choses. Je pense que souvent, quand on est jeune et on est tous passés par là, on a tous eu 18 ans, 20 ans, on a envie, on sait tout faire, on a envie de plein de choses. Sauf que des fois, ben, il faut écouter les bons conseils. Et voilà, les routes, chacun prend sa route. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer cette personne. Elle m'a beaucoup aidé. Et puis, j'ai pris le temps aussi de réfléchir. Quelquefois, il faut réfléchir.
Alors, vous allez affronter un service militaire longue durée. Et ensuite, vous allez affronter une formation qui n'a rien à voir avec celle sur laquelle vous avez travaillé pour M6, parce qu'on va expliquer comment vous avez travaillé. Une des formations militaires les plus dures au monde, hein, celle qui va vous faire entrer dans les commandos de marine. Il n'empêche qu'il vous en est resté des choses. Par exemple, le passage chez le coiffeur, qu'on retrouve dans le programme de ce soir comme vraiment une première épreuve initiatique.
Oui, c'est vrai, parce que quand on arrive, moi, quand j'ai quitté mon sud natal pour rallier la Bretagne, puisque moi je suis parti en Bretagne, j'avais les cheveux très très longs, et j'avais été déjà chez un coiffeur pour me faire raccourcir, et c'est vrai que c'était une angoisse d'aller chez le coiffeur et d'avoir une nouvelle tête, parce qu'on change complètement de physionomie le fait de passer chez le coiffeur. Mais ça faisait partie du rituel.
Ça fait partie du rituel et ça reste une grosse angoisse pour les gamins d'aujourd'hui. Vous découvrez aussi pendant les 9 semaines que vous qualifiez vraiment d'enfer physique et psychologique, qui sera votre stage commando. Vous découvrez aussi que le corps humain est une machine extraordinaire, mais que c'est la tête qui commande. Précepte que vous, aujourd'hui, que vous essayez de réinculquer non-stop aux gamins que vous faites souffrir sur le terrain.
C'est pas de la souffrance. C'est donner les clés aux gens. Donner les clés qu'on est capable d'eux et de découvrir qu'on a un corps. Et quand je dis que c'est 80% la tête, parce que c'est la tête qui commande tout le reste. Donc après, il faut arriver à se structurer et se donner l'envie et la détermination pour arriver à son objectif, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais tous les humains fonctionnent comme ça. Mais à un moment donné, il faut avoir les bonnes personnes en face et avoir sa propre réflexion pour avancer. Moi, ce que j'ai fait par rapport à mon cursus et ce qu'on a fait dans cette expérience avec les volontaires, c'est totalement différent. Mais à l'époque du service militaire, on s'est rebasé un petit peu sur le principe des classes, les appeler, qu'ils soient fils de docteurs, paysans, c'était une population tout à fait cosmopolite qui venait de différents endroits. Mais pendant leurs 3 semaines, leurs 4 semaines de classe, c'était un dépaysement total, avec beaucoup d'épreuves physiques, mentales et psychologiques. Parce qu'ils quittaient leur domicile, ils quittaient leur famille, et ils vivaient en autarcie pendant ces 4 semaines.
Alors on va y revenir justement sur le principe de l'autarcie, mais quand vous dites qu'il faut structurer sa tête, ça pose quand même une vraie question.
T'as perdu quelque chose ?
Hey !
Allô, tiens !
Qui c'est qui l'a ramassé ?
Moi, c'est moi.
C'est bien ou c'est pas bien de le ramasser pour lui ?
C'est bien, je pense.
Vous pensez ? Depuis quand vous pensez ? Penser comme réfléchir, c'est commencer à désobéir. D'accord ?
Alors Marius, c'est vous l'instructeur, c'est vous qu'on entend. Comment on peut dire ça à un jeune, vraiment, aujourd'hui ? Penser, c'est réfléchir. Et réfléchir, c'est commencer à désobéir. Vous avez des enfants ?
Parce que là, vous mettez cette phrase dans le contexte. Là, c'est le début. Et au début... Ouais. Quand vous avez en face de vous une vingtaine de jeunes volontaires comme ça, ou lors du service militaire, au début, il faut mettre des barrières. Avant de laisser les gens prendre l'initiative ou d'arriver à sentir la respiration collective, comment par cohésion, par camaraderie, on arrive à faire des choses, à soulever des montagnes, c'est-à-dire aller chercher le plus faible pour l'amener au niveau du plus fort. Et c'est là où c'est intéressant. On ne va pas chercher la Formule 1. La Formule 1 ne nous intéresse pas. On s'en fiche du gars qui est très physique, très fort ou très intelligent. Il faut mettre tout le monde à la portée de tout le monde et que l'entraide soit la dominante. Alors au début, il faut canaliser. Il faut sembler être très, très dur au début. Je dirais que c'est un peu un jeu, quoi. C'est un jeu pour montrer qu'on prend l'ascendant sur les personnes, mais après, on leur laisse énormément d'initiative. Alors, cette phrase, elle est mal placée quand elle est extraite comme ça. Il faut voir toute la continuité. Et là, c'est intéressant. Si on prend juste un petit bout comme ça, ce que les gens ont l'habitude de faire, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit dans les émissions ou autre chose, ça peut pas fonctionner. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut prendre
du
point A.
Tant mieux, parce que moi, je me suis évanouie quand j'ai entendu cette phrase.
Il faut prendre du point A. Aller jusqu'au point B et après analyser. Et là, on peut parler. Et après, je vais répondre à votre deuxième question. Oui, j'ai des enfants. J'en ai trois, puisque voilà. Je les nomme dans...
Et j'imagine que vous n'avez envie que d'une chose, c'est que eux, ils apprennent à penser et que surtout personne ne leur interdise.
Mais j'ai bien compris rien ne remplace le dialogue. Rien ne remplace le dialogue. Sauf que dans la vie, vous serez toujours confronté à des contraintes. Vous aurez toujours une hiérarchie, malheureusement. C'est utopique de dire je suis libre, je fais ce que je veux. Ça n'existe pas. Donc en fait, chaque fois et quand vous placez cette phrase et qu'elle est simplement mise comme ça, sans le contexte et sans tout ce qui va autour, ça peut pas marcher. On donne et à chaque fois.
Marius, c'est un vrai soldat. Non, il est jamais aussi bon que quand on l'attaque.
Je vais vous. Non, je me sens pas du tout attaqué. Je vous rassure. Le décodage est important. Et quand je parle de décodage, c'est ça. C'est donner justement cette liberté après aux gens d'avancer là-dessus. Si.
Alors, moi, je me sens pas attaqué. J'aimerais qu'on écoute Thomas, la façon dont lui présente sa candidature à l'émission. Puis après, on va discuter de la façon dont vous avez reçu ce candidat. D'accord. Et vous l'avez formé.
J'ai accepté de faire l'expérience du service militaire pour montrer qu'on peut être homo et qu'on peut être un mec. J'aimerais voilà que les gens comprennent ça, c'est pas parce que on est quand même un peu maniéré que un tempérament de faible quoi. Tout est dans le mental.
Ça aussi, ça m'a énormément choqué. Je me suis dit, mais comment aujourd'hui, en 2015, il faut faire la preuve? Et aujourd'hui, une chaîne de télé peut cautionner le fait qu'on fasse la preuve qu'un homosexuel, c'est un vrai mec.
Alors là, c'est moi qui suis le plus choqué. C'est pas vous?
Non.
Parce que moi, je fais jamais de différence, ni sur la couleur de peau, ni sur les tendances sexuelles de chaque personne. J'en ai rien à faire. Et si vous allez jusqu'au bout, c'est pareil. Là, on fait l'extrait de Thomas, mais il faut aller jusqu'au bout. Et je crois qu'on verra à un moment. J'ai un dialogue avec lui. Je lui explique. Moi, ça regarde que lui. C'est strictement personnel. Je vais vous donner une anecdote et elle est vraie. J'ai fait partie des commandos de marine. J'étais responsable d'une section de tireurs d'élite. Et dans mes tireurs d'élite, j'avais quelqu'un qui était homosexuel. Et tous, on le savait. Il s'est jamais étalé sur sa vie privée. On le savait. Et ça n'a jamais été une tare. Bien au contraire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et la liberté, c'est...
D'ailleurs, c'est un truc que vous martelez, hein, auprès des gamins.
Mais
pas de différence, pas de discrimination. Et d'ailleurs, vous les collez au mur quand il y en a un qui s'y essaye.
Bien sûr. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Il y a deux choses que je ne supporte pas. L'humiliation et faire la différence entre les gens. On n'a pas le droit de juger. Qui sommes-nous pour juger quelqu'un?
Les gamins, vous le dites, là, ils vivent totalement en autarcie. Vous leur retirez leur téléphone portable, ça, bien entendu. Oui. Vous leur retirez leur montre. Pourquoi cette perte de repères?
Parce que on veut les mettre d'abord dans un... On veut les... On va dire les mettre dans un cadre où c'est nous qui donnons les repères. Les repères horaires pour leur donner des bases. Et après, on le donnera. Après, on va responsabiliser... un volontaire qui lui aura la montre et qui sera responsable. C'est-à-dire on va le mettre au-dessus de la mêlée pendant un certain temps et on l'échange comme ça. C'est dans un état d'esprit. Le fait d'avoir coupé les portables, on va les couper avec les liens extérieurs. Dans cette expérience, ce qui est intéressant, et quand on a vu arriver les volontaires, les mentalités de la jeunesse des années 60, 70, 80 jusqu'à celle d'aujourd'hui n'ont pas changé. Quand on est jeune, je l'ai dit tout à l'heure, on a envie d'exploser le monde, on a envie d'exploser la Terre. On est mieux que tout le monde, on connaît tout, c'est ça. Et la seule différence qu'il y a aujourd'hui, c'est la technicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, malheureusement, vivent virtuellement avec les réseaux sociaux, avec cette liaison extérieure, mais qui n'existe pas, qui n'est pas palpable humainement parlant.
Et vu l'affaire Aurier au PSG, c'est d'ailleurs à travers les réseaux sociaux qu'ils en profitent pour défier l'autorité aujourd'hui.
Exactement, mais quelle valeur là-dedans, elles n'y sont pas. C'est pour ça qu'on enlève tout ça, on veut les couper pour qu'ils retrouvent. Et ce que je veux dire, et sincèrement, beaucoup de gens parlent de télé-réalité, tout ça. Moi, je dis oui parce que c'est de la télé.
C'est de la télé et c'est écrit et mis en scène comme de la télé-réalité.
Et la réalité, elle y est parce qu'on n'a pas triché. On n'a pas triché. Moi et mes collaborateurs, on n'a pas triché. On a fait ce qu'on avait envie de faire. On a dispensé ce qu'on avait envie de dispenser. Et on l'a fait avec nos sentiments et surtout le côté humain qui reste le plus important.
Justement, moi, c'est ce que je propose aux auditeurs de France Inter. Moi, c'est vrai que dans sa forme, ce programme, je ne l'aime pas beaucoup parce qu'il est écrit comme de la télé-réalité avec la voix off, toute la musique qui va avec, un peu racoleuse et tout ça. Je trouve ça dommage parce que je pense qu'on peut tout à fait s'en dispenser. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous écouter, vous, sans tout le décorum de téloge qui va autour. Donc, faites-vous votre avis. À mon avis, ça va soulever force discussion et force polémique. Merci, Marius. Donc, Garde à vous, ça commence ce soir sur... M6, et votre autobiographie s'intitule Parcours Commando. Elle est publiée aux éditions Nimrod. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour Sonia De Villers. Ce matin, dans Un Jour en France, un sujet très sensible. Déjà beaucoup de messages. Les éoliennes, vent de colère ou vent porteur? Nous attendons vos appels au 01 45 24 7000.
Voilà, et ce sera juste après les infos de 10h.